La parole de Dieu dans la Bible. Prédication de Durst Seconds. Bonjour frères et sœurs. Tout d'abord, je voudrais vous demander, chers auditeurs de Vox, de réécouter ce message plusieurs fois, afin de bien le comprendre. Je vais partir d'une citation de Paul que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il s'agit donc d'éprouver ou bien de tester les prophéties. La question est de savoir comment devons-nous éprouver, examiner ou tester. Avec quelle référence? Sur quelle base? Dans sa deuxième lettre, Pierre écrit au chapitre 1, versets 19 à 21, « Et nous avons rendu plus ferme la parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Car la prophétie n'est jamais venue par le vouloir de l'homme, mais des hommes ont parlé de Dieu, étant poussés par l'Esprit Saint. » Pierre dit donc bien, pas d'interprétation personnelle, car aucune prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais c'est inspiré par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de Dieu. Il ne nous appartient donc pas d'interpréter, par exemple, les prophéties d'Ésaïe, selon notre propre envie. Notre Bible est appelée aussi « Saintes Écritures » ou « Parole de Dieu » ou encore « Le Livre des Livres ». Le terme « Bible » vient du mot grec « biblia » qui signifie « des livres » au pluriel, car il s'agit ici d'une collection de livres qui forment ensemble ce que nous appelons l'Ancien et le Nouveau Testament. Le terme « testament » a été employé par Paul dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, versets 16 et 17. Mais moi je préfère parler de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, comme d'ailleurs dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, et dans Galates, chapitre 3, verset 15. Car il s'agit toujours de l'alliance entre Dieu et les hommes. La première partie de la Bible est une collection d'écrits juifs. Et c'est tout ce dont disposaient les disciples de Jésus en leur temps. La seconde partie, c'est la nouvelle alliance conclue par Jésus. Ce sont les évangiles, les lettres et le livre remarquable de l'Apocalypse. La Bible a été écrite essentiellement en hébreu et en araméen pour ce qui concerne l'Ancien Testament, et en grec pour ce qui concerne le Nouveau Testament. Au temps où ce dernier fut écrit, le grec était la langue commune, un peu comme l'anglais de nos jours. Ces textes ont été recopiés d'innombrables fois. Il en existe beaucoup de manuscrits et de traductions. Et ces traductions diffèrent légèrement entre elles parce que le texte original est parfois très difficile à pénétrer. Il existe aussi beaucoup de commentaires de la Bible. Mais qui a déterminé ce qui devait faire partie de la Bible et ce qui devait en être retranché? Connaissez-vous le canon? C'est l'ensemble des textes bibliques tenus pour être d'inspiration divine. Le mot vient du grec canon, qui signifie règle, loi ou modèle. En grec, il y a aussi cana, qui signifie canne ou roseau. En latin, nous avons aussi cana, qui signifie roseau. Tous ces mots ont une origine commune, qui signifie une baguette ou une barre servant à mesurer. Le canon, c'est la règle ou la norme qui sert de mesure. Quand Jésus parle des Écritures, il cite les psaumes, les prophètes et des paroles de Moïse, car ceci est le plus important. Les histoires dans le livre des rois et des chroniques sont très intéressantes. Et si on y voit une signification profonde, c'est très bien. Mais l'essentiel de la Bible se trouve dans les paroles de Moïse, les psaumes et tous les prophètes, les grands et les petits. Le Nouveau Testament se compose essentiellement des évangiles et des lettres. Ces écrits datent de longtemps après le temps de Jésus. Paul n'a jamais pensé que ces lettres pastorales seraient un jour rassemblées en un livre, dont on ferait des études gigantesques. Si un pasteur actuel écrit une lettre à quelqu'un ou à une église, pensez-vous qu'on ajoutera cette lettre à la Bible et qu'on en fera un tas de commentaires théologiques? Enfin, qui a déterminé quel livre et quelle lettre devait faire partie de la Bible? Et comment a-t-on pu être certain du bon choix? C'est seulement des centaines d'années après Jésus-Christ que l'on a décidé de cela. Qui? Des empereurs, des papes et des conciles. Ce sont eux qui ont déterminé quels étaient les livres canoniques. Et les livres dont on mettait l'inspiration divine en doute ont été appelés deutérocanoniques. Et puis, ceux qui ne furent pas acceptés comme inspirés par Dieu ont été appelés apocryphes. Mais Luther disait, lisez-les tous, cela ne vous fera pas de tort. Tandis que l'Église catholique disait, c'est à nous à déterminer ce qui fait partie du canon ou pas, car nous étions les premiers. En effet, nous étions tous de l'Église romaine dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Au début, la seconde lettre de Pierre, celle dont nous venons de lire un passage, n'y était pas. Elle a été ajoutée par la suite. La troisième épître de Jean non plus, et l'Apocalypse pas davantage. L'Apocalypse n'a été insérée dans le canon qu'au Ve siècle, parce que c'était une histoire fantastique. Un peu comme de la science-fiction ou de la fiction religieuse. Pour ce qui est de l'évangile de Jean, il en existait des dizaines de manuscrits. Et lequel était le bon? Il y avait aussi beaucoup de fausses épîtres en circulation. Et certains faussaires sous-signaient leurs écrits du nom de Paul pour faire admettre leur point de vue plus facilement. Il y a aussi eu une troisième lettre aux Corinthiens, puisque Paul en parle dans une autre de ses lettres. Mais elle a été perdue, et personne ne sait où elle se trouve. Une lettre adressée à l'église de Laodicée a également été perdue. Dommage. Il existe beaucoup de littérature au sujet de l'élaboration de la Bible. Si vous le pouvez, lisez-la. C'est très intéressant. Vos yeux s'ouvriront et vous ne direz plus que la Bible est inspirée de Dieu d'un bout à l'autre. Car ce n'est pas vrai. Je vais essayer de vous démontrer que la Bible n'est pas infaillible du début jusqu'à la fin. Au cours des siècles, on s'est beaucoup disputé à ce sujet. Et les conséquences s'en ressentent encore aujourd'hui. Lorsque le pape parlait en tant que chef de l'Église, du haut de la chair, chacune de ses paroles était considérée comme infaillible. Et ceci durant toute l'histoire de l'Église. Des traditions sont venues s'ajouter. L'Église est fort attachée à la tradition. Ensuite, on a dit que la Bible est un livre saint. Mais d'autres religions dans le monde ont aussi leur livre saint. L'islam a son Coran. L'hindouisme a ses écrits sacrés, la Véda. Les Mormons ont le livre de Mormon, qui aurait été recommandé par un ange appelé Mormon. Ainsi, chacun a ses livres saints. Revenons à notre Bible. Chaque mot en a-t-il été inspiré par l'Esprit de Dieu? Il est dangereux de l'affirmer, parce qu'il y a des erreurs dans la Bible. Oui, la Bible comporte des erreurs. Elles ont été répertoriées. Je dis que si une religion est basée sur un livre, cela conduit à la guerre. Toutes ces guerres chrétiennes ne trouvent-elles pas leur origine dans des conceptions et des interprétations différentes? Toutes les disputes et les schismes. Les Pays-Bas en sont tristement célèbres. Et ceci concerne également le monde évangélique. Si on se base uniquement sur un livre, on aura un grand nombre d'interprétations et il y aura des divisions, des soi-disant guerres saintes. Chacun y aura sa propre vérité et dans le feu du combat, l'amour sera perdu. Je vais vous montrer une faute manifeste dans la Bible. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 1, il est écrit que Dieu incita David à dénombrer le peuple. Et dans 1 Chronique 21, c'est Satan qui incite David à dénombrer le peuple. Où donc est l'erreur? Il y a beaucoup d'autres erreurs. Mais cela ne doit pas être un problème. Si on compare les évangiles, on voit des divergences dans l'ordre chronologique. Et cela n'est pas étonnant. Si vous assistiez tous à un même événement, une fête ou une catastrophe, et si vous étiez amené à rapporter cet événement, chacun de vous en aurait sa propre version. Chacun décrirait l'événement à sa manière. Et c'est bien ainsi. Chacun a sa propre histoire. Le contraire est pratiquement impossible. Des chrétiens emploient comme argument « Dans la Bible, il est écrit, etc. » Mais les musulmans peuvent dire « Dans le Coran, il est écrit. » Et les hindous diront « Dans la Véda, il est écrit. » Dans l'Égypte antique, on pouvait dire « Dans le livre de la vie et de la mort, il est écrit. » Tant de choses ont été écrites. Jésus connaissait ces discussions. Et il s'en est servi quelquefois contre des scribes. Un jour, il va même jusqu'à dire au docteur de la loi, je dis bien au docteur de la loi, « Vous ne connaissez pas les Écritures, N'était-ce pas là une injure? Mais pour Jésus, connaître signifiait autre chose. Celui qui connaît réellement le Père, par l'Esprit Saint, celui-là comprend le principe d'interprétation exacte. Nous nous basons sur des textes bibliques, mais les textes bibliques sont des paroles d'autres personnes. Les Juifs disaient à Jésus, Moïse a dit que... Et Jésus leur répondit, oui, c'est vrai, mais moi, je vous dis que... Que pensez-vous de ceci? Jésus a donc affirmé que ce que disait Moïse, c'était bien, c'était des bonnes paroles. Mais Jésus lui-même a quelque chose de meilleur. Dans la lettre aux Hébreux, on lit 10 fois le mot « meilleur ». Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance, un meilleur royaume, une meilleure patrie. Les choses anciennes étaient bonnes, mais Jésus est venu avec quelque chose de meilleur. Par exemple, Moïse disait « œil pour œil, dent pour dent ». Si tu me frappes, je te rends les coups. Et ainsi, l'équilibre est rétabli. Mais Jésus disait, aime cet ennemi qui t'a frappé, car Dieu est bon pour l'ami et pour l'ennemi. Ceci est tout de même d'un ordre supérieur, n'est-ce pas? Vous pouvez lire ceci dans Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Quelle connaissance avons-nous de Dieu? La parole de Dieu n'est pas un gros bouquin, mais la parole de Dieu, c'est quelqu'un. À la fin de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 13, il est écrit « Il est enveloppé d'un vêtement trempé dans le sang. Il s'appelle de son nom « Parole de Dieu ». Donc, Jésus est la parole de Dieu. Dieu le voit et il dit à ses anges, « Voici ma parole, le voici, une personne vivante, écoutez-le. » Et ceci est également valable pour la vérité et la lumière. Ce ne sont pas des choses abstraites, car Jésus a dit de lui-même qu'il est la vérité et la lumière. Ses paroles sont devenues chères en lui. Jésus s'est attribué à lui-même tout ce qu'il lisait dans les psaumes et les prophètes et dans les paroles de Moïse. Il disait « Il s'agit de moi ». Comment lisons-nous la Bible? Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12, il est écrit que les prophètes ont prophétisé de la grâce qui nous était destinée. Eh bien, c'est de nous qu'il s'agit. Nous qui connaissons la fin des siècles et nous qui avons part à la gloire du Christ qui a été recherchée avec tant d'ardeur par les prophètes. Ceci est prodigieusement beau. Quelle merveilleuse idée que celle d'avoir part aux pensées de Dieu. C'est cela le royaume de Dieu. Nous pouvons penser de façon originale, à partir du Père. Dans le Nouveau Testament, le terme qui désigne la conversion, c'est métanoïa, et cela signifie changement de pensée. Changement de pensée. C'est ce que nous devons apprendre à faire et arriver ainsi, ensemble avec tous les saints, à connaître les dimensions de l'amour de Dieu. Voyez Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans les faire-part de décès, on lit souvent des textes ou des citations bibliques. Je lis souvent, par exemple, « Le Seigneur est mon berger ». C'est très connu. Cette parole magnifique est née de la collaboration qui existait entre Dieu et David. Mais nous autres occidentaux, nous n'employerions peut-être pas ce terme, car il n'y a pas beaucoup de bergers chez nous. Je vous le demande, quelle image employeriez-vous pour exprimer la relation féconde que vous avez avec Dieu par l'Esprit Saint? Les textes bibliques sont des paroles d'autrui. Et moi, je trouve plus intéressant de développer des fruits soi-même. Par exemple, comme en tête d'une annonce de décès, on pourrait lire une phrase propre du défunt. Qu'en pensez-vous? Pierre dit, « Si vous parlez, que ce soit des paroles comme venant de Dieu. » Pourtant, quand on parle, il s'agit de nos paroles. Dieu laisse intacte notre façon de parler, notre façon de dire les choses. Comparons les prophètes Ésaïe et Amos entre eux. Ésaïe a un vocabulaire très riche. C'était un homme cultivé. Mais Amos dit de lui-même qu'il n'est qu'un éleveur de moutons. Et cela se voit à sa façon de s'exprimer. Mais les deux désignent la même chose. Voilà qui est formidable. Si Ésaïe et Amos se rencontrent dans le ciel, ils se donnent la main, car ils ont voulu tous les deux la même chose. Ceci est beau, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous reconnaissons les choses dans notre frère et dans notre sœur. Le Dieu de l'ancienne alliance n'était pas différent du Dieu de la nouvelle alliance. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Dieu était beaucoup plus cruel. On a dit de lui qu'il avait inventé le mal et qu'il le faisait exécuter par le diable, comme on le voit dans le livre de Job. Mais il serait un père bien étrange, ne trouvez-vous pas? Pourtant, Dieu n'a pas changé. Mais la compréhension, l'interprétation de Dieu était alors différente. Beaucoup de propriétés du diable ont été attribuées à Dieu. Il y avait tant de faux dieux qu'on ne voyait plus le seul vrai. Même Moïse s'est trompé parfois. Nous le voyons dans les psaumes de vengeance, de malédiction et dans ces guerres qu'on menait au nom de Dieu. Elles étaient aussi cruelles que la guerre en Irak de nos jours. Samuel a décapité des personnes au nom de Dieu. On a coupé les pouces des rois vaincus. Des histoires barbares, sanglantes. Était cela la main de Dieu? Pouvez-vous aimer un tel Dieu? Non, n'est-ce pas? Tout au plus le vénérerait-on dans l'angoisse. On lui offrirait pour s'attirer ses bonnes grâces. On lui demanderait chaque jour, « Dieu, comment voulez-vous que je vive? Parce que si je n'agis pas bien, Dieu va me frapper ou il va me rendre malade. » En rapport avec ceci, je vous invite à lire Jérémie, chapitre 7, verset 21-28. Dans le verset 23, il est dit « Écoutez ma voix ». Mais qui d'entre nous peut le faire? Il y a tant de voix. Lorsqu'il est question de violence physique ou verbale, quelque forme que ce soit, cela ne vient pas de Dieu, notre Père. Ce n'est pas lui qui a inventé le déluge. En voulez-vous la preuve? Lisez Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Jean et Jacques disent « Ferons-nous descendre du feu du ciel pour le détruire, ces gens qui ne nous reçoivent pas ?» Mais Jésus les regarde et il les rabroue. Les disciples ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés, parce qu'ils avaient une image erronée de Dieu. La pensée de Jean et de Jacques était voilée. Mais en Christ, ce voile est enlevé. Dès que l'on croit en Christ et qu'on est rempli de son esprit, le voile tombe. À la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 45, il est écrit que Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est seulement alors qu'ils comprirent la profonde signification de Moïse, des prophètes et des psaumes. On ne peut la comprendre sans Christ. Dans la loi de Moïse, que nous lisons dans Deutéronome chapitre 21, verset 18, on lit que si on a un fils indocile et rebelle, on peut le conduire aux anciens pour le lapider. Les blasphémateurs aussi étaient lapidés. Ce sont quelques exemples. Pourtant, Jésus nous apprend à aimer et à être transformé dans notre façon de penser. Jésus aussi a été plusieurs fois menacé de lapidation. Et comment y réagissait-il? En s'échappant et en se cachant parmi la foule. Ce n'est pas très téméraire, n'est-ce pas? Mais une telle attitude m'émeut profondément. On a aussi jeté des pierres à la tête de Paul. Et Stéphane, lui, il en est mort. Jésus a connu tant d'opposition parce qu'il parlait et qu'il agissait à partir d'une conception de Dieu toute autre. Et cela ne fut pas accepté. Il ne venait que de Nazareth. Il fut rejeté, lui, la pierre angulaire. Et si nous commençons à ressembler à notre Père céleste, nous connaîtrons le même sort. Réfléchissons-y. On a dit beaucoup de choses fantaisistes sur le baptême dans l'Esprit Saint. Recevoir, c'est concevoir. On reçoit un principe de vie de Dieu. C'est la conception de la vie de Dieu en nous. Et on ne reçoit pas cet esprit pour réaliser ses propres idéaux, mais pour réaliser l'idéal de Dieu. Et l'esprit est humble, modeste et discret. Utilisons ce que Dieu dit dans la Bible comme cadre de référence. C'est cela, examiner et tester. C'est pourquoi avoir des conversations est important. Ainsi, nous aurons un échange. Ainsi, nous pourrons juger des prophéties et des visions à leur juste valeur et leur vérité. Car il y a beaucoup de confusion en ce domaine. Cela est dit dans Jérémie, au chapitre 23, versets 25 à 32. Même dans les prophéties d'Ésaïe, il y a des choses bizarres. Il y est dit que Dieu a créé le destructeur pour briser. Au chapitre 54, verset 16. Pouvons-nous douter de la parole de Dieu? Non. Mais nous pouvons douter de l'interprétation d'Ésaïe. Me comprenez-vous? Bien sûr, 99% de ce qu'Ésaïe a prophétisé est impeccable. Actuellement, il existe des revues, des périodiques, qui racontent des prophéties et des visions à propos des intentions spéciales que Dieu aurait pour l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Mais c'est horrible. Je veux dire qu'il faut toujours tester et examiner les visions et les prophéties. Les prédications aussi, même les miennes. Car je veux que l'on me corrige s'il y a lieu. Je serais déçu du contraire. Jésus cite souvent les psaumes, les prophètes et Moïse, car tout s'y trouve. Et de quoi parle ce texte? Jésus dit de moi. C'était osé. Si quelqu'un me dit, le Seigneur me dit dans mon cœur, alors je veux savoir si c'est bien le Seigneur, car il faut toujours examiner, vérifier, soit que l'on écoute, soit que l'on lise. Il faut toujours être sélectif. Sélectionnons toujours ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Car on est confronté à toutes sortes de choses aujourd'hui. Un jour, un docteur de la loi demanda à Jésus, « Que faut-il faire pour recevoir la vie éternelle ?» Voyez Luc chapitre 10, verset 26. Et Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Et comment lis-tu ?» Comment lisons-nous? Ceci est une question cruciale. Sommes-nous sélectifs? C'est important pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Sinon, les prophéties seront expliquées selon son propre vouloir. Combien de prophéties ne sont-elles pas interprétées de façon naturelle, décalées vers un peuple visible, comme le peuple d'Israël de nos jours? Dieu aurait-il quand même encore une intention spéciale avec ce peuple? Pourtant, Dieu aime tout autant les Palestiniens. Dieu aime tous les peuples. Qu'en pensez-vous? À quoi sommes-nous appelés? Car tout n'est pas encore accompli. Jésus donne une remarque très consolante dans le chapitre 16 de Jean. Il dit que le Saint-Esprit nous apprendra tout. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, nous devons bien nous écouter les uns les autres, de sorte qu'il n'y en ait pas un qui dicte sa loi, mais que nous nous écoutions mutuellement. Écoutons ce que l'Esprit dit aux Églises. Très bien. Mais je pense parfois, comment l'Esprit parle-t-il? Et avons-nous des oreilles pour l'entendre? Jésus dit dans Jean chapitre 16, versets 14 et 15, en parlant de l'Esprit, « Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Et c'est ainsi que nous serons un avec Jésus. L'Esprit Saint nous remettra en mémoire les pensées de Dieu, celles qu'il avait dès le commencement. Nous pouvons donc retourner vers le commencement, vers les pensées de Dieu qui ne sont pas liées au temps ni à l'espace. La parole de Dieu. Car au commencement était la parole. Si je me relie en esprit à la parole, je ne me fais plus de soucis à propos du temps et de l'avenir, car je suis relié au tout début, l'Éternel. Jésus a dit « Je ne dis rien de moi-même, je parle de ce que j'ai entendu du Père. » D'où ma question. Avons-nous suffisamment de discernement des esprits? Savons-nous distinguer les manifestations de l'Esprit-Saint? Jésus a dit « Mes brebis me reconnaissent, elles entendent ma voix et elles n'écouteront pas celle d'un autre. » Mais faisons attention. Il y a quelqu'un qui peut très bien citer des versets bibliques. C'est le diable lui-même. C'est à nous à discerner. Et je vous prie de distinguer aussi si ici même je parle de moi-même ou de la part de Dieu. Le mot « lire » comprend aussi la notion de collectionner, ou bien d'amasser des trésors. En lisant, on s'approprie un monde de pensées. Le mot grec pour lire, c'est ananognosko, ce qui signifie se souvenir ou reconnaître. En lisant un passage d'Ésaïe, nous pensons, oui, je le reconnais, cela me dit quelque chose. Sur quelle base le reconnaissons-nous? C'est un processus de l'esprit. En continuant de lire, on se dit « Oui, ceci est inspiré par l'Esprit-Saint. Il s'agit du Christ. Je le reconnais. » Littéralement, « Je le sais de nouveau. » Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Dans la plupart des traductions en français, ce texte est rendu de cette façon. Mais dans le texte original, au lieu de « toute écriture est inspirée de Dieu », nous avons « toute écriture inspirée par Dieu est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, etc. » C'est donc que chaque parole écrite n'est pas nécessairement inspirée par Dieu. Il y en a d'autres. Donc, il faut discerner si l'écrit a été ou non inspiré par Dieu. On reconnaît directement si une parole est inspirée par Dieu. On le reconnaît aussi dans les prières. On peut l'entendre. Si on n'y reconnaît pas l'inspiration divine, c'est qu'il faut la rejeter, parce qu'elle ne contient pas de vraie vie. En résumé, je dirais que la Bible est un livre écrit par des hommes et qui traite de leur relation avec Dieu. La Bible contient beaucoup de paroles de Dieu et on les reconnaît comme venant de notre Père Céleste. Écoutons donc bien ce que l'Esprit-Saint dit aux églises. Et discernons bien les paroles et les voix. Amen. Prions. Père, apprenez-nous à distinguer l'essentiel. Et par votre esprit, conduisez-nous toujours plus en avant
dans votre monde de pensée, parce que vous êtes uniquement amour. Merci Père, parce que nous devenons de plus en plus conscients d'être vos paroles, dans votre Fils, dans votre parole depuis le commencement. Parce qu'à vous appartiennent le royaume et la gloire. Amen.